Chapitre 44. Pour pénétrer dans le territoire du néant, il fallait se laisser engloutir par le Léviathan. L'encadrement de la porte représentait en effet la gueule diabolique de ce monstre destructeur, dont la langue faisait office de tapis et les yeux globuleux d'enseignes lumineuses. Les clients les plus grands sentaient la pointe des dents de la bête leur effleurer le crâne. Le rabatteur, au teint blanc maladif, sans doute poudré, était vêtu d'un costume noir façon pompe funèbre, et lâchait d'enjouer « Entrez, entrez, Maccabée !» On approchait 22h30 quand Charcot franchit le seuil de cet endroit pour le moins macabre. Il était équipé d'un micro et d'un minuscule boîtier GPS planqué dans la doublure de son blouson, mais n'avait pas emporté son arme de service. S'il devait se passer quelque chose d'illégal, il serait peut-être fouillé au préalable. Lucie et Pascal, eux, étaient déjà à l'intérieur et en mesure d'assurer ses arrières. Deux brigadiers en renfort patientaient entre un restaurant et un lavomatique, à une trentaine de mètres de là. Franck s'engagea sous une voûte à laquelle un panneau « salle d'intoxication » avait été accroché et alla s'installer à une petite table en forme de cercueil. Des cierges brûlaient dans des chandeliers. Des lampadaires funéraires éclairaient toutes sortes de clichés morbides sur les murs. Des vieilles familles qui s'étaient photographiées avec leurs défunts, des cimetières inquiétants, d'impressionnants ossuaires avec des crânes entassés en pyramide. Une population très éclectique circulait dans l'établissement, buvait au comptoir ou se dirigeait vers d'autres salles plus en profondeur. La première avait été baptisée « Caveau des trépassés ». D'après les affiches aux allures d'avis de décès, le mercredi, cette pièce accueillait des spectacles. Un groupe de hard rock était d'ailleurs en train de se produire, vu la musique et les aboiements qui résonnaient à travers les cloisons. Charcot, lui, avait orné ses doigts de bagues avec des vanités, ce qui lui donnait un look en adéquation avec l'endroit. Ici, personne ne prêtait attention à lui. Il scruta la carte des boissons et plissa le nez. La tombe, venin de crotal et miasme de cadavres frais. Le croque-mort, bave de crapaud, traînée de chenilles et poudre d'ongles. Le cercueil, jus d'asticot et crachat de tuberculeux. Un astérisque indiquait « Buvez les microbes de la mort sans modération, mais avec résignation ». Heureusement, au verso, les vrais ingrédients étaient listés. Le cercueil était un cocktail à base de Baileys, de liqueur de café et de Cointreau. Charcot en commanda un quand une serveuse déguisée en zombie se présenta à sa table. Fausse dent gâtée, yeux jaunes, croûte ensanglantée sur le visage, au moins cet aspect répugnant leur évitait la drague lourdingue. Lucie et Pascal, de leur côté, venaient d'aller se chercher un verre au bar avant de s'éloigner de nouveau. Ils avaient fait comme s'ils n'existaient pas, mais le commandant les savait aux aguets. Il suffisait qu'ils prononcent « c'est pas Byzance ici » pour que l'information soit transmise à Lucie via la minuscule oreillette planquée sous ses cheveux détachés, et qu'ils interviennent. Le dessous de verre en carton arriva, avec la boisson présentée dans un faux crâne et agrémentée d'un subtil effet de fumée qui lui donnait des allures de potion. Franck n'avait rien remarqué dans le manège des employés. Dès que les clients terminaient leur consommation, tout était ramassé pour être apporté derrière le bar. Ce qui se passait ensuite, Charcot l'ignorait. Tout en feignant de siroter son cocktail, il sortit discrètement un stylo et nota derrière le dessous de verre « Pazouzou ». Plus tard, il fixa avec angoisse la fille zombie pendant qu'elle le débarrassait. La machine était lancée. Dans les heures qui suivirent, rien ne se produisit. Pas d'agitation, pas de yad en coin. Les gens buvaient, riaient, comme dans un établissement ordinaire. À plusieurs reprises, la serveuse revint à la charge, lui demandant de consommer ou de libérer la place. Charcot échangea discrètement son verre avec un verre vide qui traînait sur une autre table et se commanda alors un soft. Mais la soirée touchait à sa fin. Le groupe de musique en avait terminé. Les clients commençaient à quitter les lieux. Une demi-heure plus tard, on fermerait les portes. Le flic bouillonnait. Ou le rendez-vous avait complètement foiré, ou le bar-spectacle n'avait aucun rapport avec cette histoire de faille, ou bien on l'observait. probable que celui ou ceux qui étaient derrière cette organisation se méfiaient, que l'attente faisait partie du processus. En toute discrétion, il fit savoir du bout des lèvres à Lucie et Pascal qu'ils ne pouvaient plus rester. Les lieux se vidaient et on risquait de repérer leur manège. Il les vit alors s'esquiver avec un groupe. Lucie lui jeta un bref regard teinté d'inquiétude avant de disparaître. Il serait dehors, certes, mais à proximité, prêt à réagir au moindre problème. Charcot avait confiance. « Lève-toi et suis-moi. » L'homme qui venait de s'adresser au flic était arrivé par derrière. Un gnome à la moustache noire, la peau cuite par le soleil, presque tannée. Une sale gueule de reptile à l'accent hispanique qui semblait sortir de nulle part. Franck le voyait pour la première fois de la soirée. Où est-ce qu'on va? Pose pas de questions. Charcot sentit une vague de stress monter en lui. Les employés continuaient à débarrasser les tables et à presser les derniers clients sans se soucier d'eux. Docile, il emboîta le pas à l'individu et ensemble ils s'engagèrent dans la salle où avait eu lieu le concert, désormais quasi déserte. Là, le moustachu poussa une porte, dévoilant une volée de marches. Un panneau en surplomb indiquait « espace de frayeur extrême ». Deux gamins remontaient justement, silencieux et livides. L'un d'entre eux lâcha « Bon courage, mec, ça déchire ». Dès qu'ils furent en bas, l'homme plaqua Franck contre le mur et entama effectivement une fouille au corps. Épaules, flancs, hanches, la laine du type était poivrée et dans ses yeux, le serpent de la perversion remuait la queue. Il tomba sur le paquet de billets, compta, l'allégea de 1 000 euros qu'il fourra dans sa poche avant de lui rendre le reste. « Et ça, tu le récupères plus tard » fit-il en s'emparant du portable. « Quand plus tard ?»« Plus tard, à la sortie. » Charcot n'insista pas. Il avait prévu le coup en embarquant un vieux téléphone sans forfait. Ils s'enfoncèrent dans un long couloir voûté tout en pierre. Le flic n'eut pas le temps de vraiment voir, mais il aperçut à droite et à gauche des cercueils placés verticalement, des décors gothiques où pendaient des chaînes et des squelettes, des cages, des espèces de niches qui lui filèrent la chair de poule. L'homme l'entraîna au bord de l'une d'elles. Au-dessus de la voûte était écrit « L'emmuré vivant ». Il ouvrit une porte verrouillée, poussa Charcot devant lui. La cloison du fond avait été défoncée. Des briques rouges jonchaient le sol autour d'un étroit trou noir. « Entre, va falloir te baisser un peu. » « Dans ce trou, tu ne vas quand même pas m'enfermer là-dedans. »« Pourquoi ? T'as peur ?» Franck n'avait pas le choix. Ces types testaient sans doute sa détermination. « Si vous êtes ici, vous savez que la faille n'est pas un jeu. Elle est réelle et dangereuse. » Il se tranquillisa en se disant que l'autre ne l'avait pas intégralement dépouillé de son argent, qui devrait donc servir plus tard. Pour que sa voix ne le trahisse pas, il lui répondit par un simple sourire qu'il espéra convaincant. Les briques renversées étaient en fait collées par terre. « C'est un décor, une attraction, tu ne risques rien », tentait-il de se rassurer. Il se plia en deux pour passer et en se relevant heurta un autre mur. Aussitôt il perçut un grondement. L'issue par laquelle il était entré venait de se boucher. Noir absolu. À peine l'espace pour se retourner. Il devinait un chuintement au-dessus de lui, peut-être un moyen de renouveler l'air. Toute cette mise en scène devait faire partie des précautions que ces salopards prenaient. Il parla tout haut, comme à lui-même, priant pour que le reste de l'équipe l'entende. « Ça va aller. Pas de panique, d'accord? Tout va bien. » Il parvint à s'asseoir en se mettant de profil. Il se sentait oppressé. Des gens se laissaient vraiment emmurer ainsi pour le frisson. Il essaya de contrôler sa respiration, ferma les yeux. « Quelle mort horrible » songea-t-il. Dire que ce genre de torture barbare avait existé. À cet instant, il pensa à Emma Doty. Elle aussi avait dû se retrouver ici. Il imagina son angoisse, sa solitude. Peut-être après son passage dans ce trou, n'avait-elle plus jamais revu la lumière du jour? Frank aurait aimé savoir si Lucie était toujours là. Avec toutes ces pierres, ces couloirs sous terre, ses coéquipiers captaient-ils encore son signal? À plusieurs reprises, l'envie de déclencher l'alerte le démangea. Les images morbides l'assaillaient. Et si personne ne venait ouvrir? Et si on coupait l'arrivée d'air? Et si... Malgré tout, il tint le coup. À 3h15, l'homme à la moustache se pointa avec une petite lampe torche, un sourire aux dents grises affiché sur le visage. « Toujours en vie, camarade ?» Charcot s'extirpa de sa niche dans une grimace, ankylosée. À présent, plus un bruit ne régnait alentour. L'homme tenta de lui mettre un sac en toile sur la tête, mais le flic lui attrapa le poignet. « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est ça ou tu dégages ?» Frank finit par se laisser faire. Il eut l'impression qu'il retournait dans le couloir, puis il perdit le sens de l'orientation. Des bruits de serrures et de grilles résonnèrent. Après quoi, ils marchèrent longtemps, descendirent un escalier, en remontèrent un autre, ou peut-être était-ce le même. Charcot perçut de l'air frais à un moment. Il comprit que son guide faisait tout pour qu'il perde ses repères, et ça fonctionnait. Quand le type lui ôta enfin le sac, ils avaient atterri dans un espace totalement obscur. Ils ne distinguaient pas même les murs. Le reptile souleva une trappe avec un crochet, peina tant elle pesait. Une bouffée glacée semblant jaillie d'outre-tombe vint fouetter le visage du flic. Un trou. Une échelle incrustée dans ce qui paraissait être un puits s'enfonçait si profond que Frank n'en voyait pas l'autre extrémité. Son guide lui tendit une lampe. Catacombas. Charcot retint son souffle. Les catacombes. S'il s'aventurait dans ce labyrinthe, plus personne ne pourrait l'aider. Il serait complètement seul. T'es un privilégié, fit le type. Cette entrée n'est référencée sur aucune carte. Et au cas où il te prendrait l'idée de revenir par toi-même un de ces jours, laisse tomber. Tu ne trouveras jamais. Où je vais? Comment je ressors? L'homme haussa les épaules. J'en sais rien. Tout ce que je fais, moi, c'est de conduire ici. Ce que vous foutez là-dessous, ce que vous voyez, toi et l'étendue de ton genre, j'en ai rien à secouer. Allez, barre-toi maintenant. Frank songea à l'état dans lequel devait être Lucie. Il était encore temps de tout arrêter, de faire demi-tour. Mais il s'empara de la torche, agrippa les barreaux et se mit à descendre. 10 secondes plus tard, le couvercle se rabattait au-dessus de sa tête dans un claquement sinistre.